Radio Vatican, France-Afrique.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Dans cette édition, il sera tout d'abord question de l'audience du pape Léon XIV avec les participants du jubilé des églises orientales en cours à Rome. Le souverain pontife s'est engagé à tout faire pour répandre la paix au Moyen-Orient, tout en offrant la disponibilité du Saint-Siège à faire dialoguer les ennemis. Nous parlerons également du premier forum national de la Fondation Caritas Cameroun qui vient d'être organisé dans un climat de préoccupation suite à la suppression de 83% des programmes de l'agence de développement USAID par le gouvernement américain. Ce forum avait pour objectif d'inaugurer une plateforme d'échange avec des partenaires autour de diverses thématiques. Après l'actualité sociopolitique africaine, nous reviendrons à l'élection du pape Léon XIV, une élection qui a été accueillie avec une grande joie par l'ordre de Saint-Augustin, sa famille religieuse qui s'engage désormais à soutenir son pontificat par la prière. Vous entendrez le père Tchabi Kolawale, Augustin béninois, professeur des pères de l'Église à l'Institut pontifical Saint-Augustin de Rome. Vous entendrez également le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, Burkina Faso, un des 133 cardinaux électeurs qui nous partagera sa vision des défis auxquels pourrait faire face le nouveau souverain pontife.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
La feuille de route pour les églises orientales. Léon XIV est revenu mercredi sur la vision d'un Orient chrétien à la double histoire glorieuse et douloureuse. C'était lors de sa deuxième audience publique de la semaine accordée aux participants du jubilé des églises orientales en cours à Rome. Dans un dense discours prononcé devant 23 responsables d'églises et des milliers de fidèles, l'évêque de Rome a appelé à la préservation et à la promotion de l'Orient chrétien, particulièrement dans les diasporas. Delphine Allaire.
Les fidèles orientaux ayant déjà perdu leur patrie ne peuvent pas perdre aussi leur identité religieuse. Pour juguler ce risque, le pape Léon XIV insiste sur la nécessité de sensibiliser les fidèles latins, en plus de créer, lorsque les situations le permettent, des circonscriptions orientales. Le nouvel évêque de Rome demande aux dicastères romains ayant la charge des églises orientales de définir des principes, des normes, des lignes directrices pour soutenir concrètement ces catholiques orientaux en diaspora, car l'église a besoin d'eux, a lancé le pape égrenant toutes les leçons spirituelles enseignées par l'Orient chrétien à l'Occident, comme le sens du mystère ou celui de la primauté de Dieu. Une richesse spirituelle à préserver sans l'édulcorer, a prévenu le pape, qui met en garde contre l'esprit consumériste et utilitariste pouvant la corrompre, tout comme un excès de mondanité. Le pape a ensuite lancé un vibrant appel à la fin des conflits, de la Terre Sainte à l'Ukraine, du Liban à la Syrie, du Moyen-Orient au Tigré et au Caucase. Les peuples veulent la paix et la main sur le cœur, je dis aux responsables des peuples, rencontre nous dialoguons, négocions, affirme Léon XIV, et déclarant vouloir tout mettre en œuvre pour que cette paix se répande et que les armes se taisent. Le pape a pour cela réitéré la disponibilité du Saint-Siège à la médiation pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux. Il a invité chacun à fuir les visions manichéennes typiques des récits violents qui, selon lui, divisent le monde entre bons et méchants.
Delphine Allaire. Le pape, grand amateur de tennis, qui a également reçu mercredi au Vatican l'Italien Gianni Cassiner, le champion du Tyrol du Sud, qui participe aux internationaux de Rome, en compagnie de ses parents et du président de la Fédération italienne de tennis. Un bref moment de salutation et de dialogue avec le numéro 1 mondial du tennis, qui s'est dit très honoré de rencontrer un pontife qui n'a jamais caché sa passion pour ce sport. Le président de la Fédération italienne de tennis a remis au pape une carte de membre honoraire à son nom. Le pape Léon XIV, qui entend poursuivre la ligne de ses prédécesseurs en matière de réseaux sociaux, où il aura une présence active. Léon XIV va reprendre sur X les comptes pontifices qui avaient déjà été utilisés par le pape François et auparavant par le pape Benoît XVI. Plus de 900 supérieures générales de congrégations féminines du monde étaient réunies du 5 au 9 mai à Rome à l'occasion de l'Assemblée plénière de l'Union internationale des supérieures générales. Sœur Christiane Baca est la supérieure générale de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire. Elle nous situe sur les objectifs de cette rencontre internationale qui avait pour thème « La vie consacrée, une expérience qui transforme ».
Autour de ce thème général ont gravité plusieurs sous-thèmes Les uns ont porté sur l'identité de la vie religieuse elle-même, avec un fort accent sur l'être religieux, et les autres, par des actions concrètes, ont montré la mission des religieux et religieuses dans le monde entier, dans le monde et dans l'Église. L'objectif principal de cette assemblée, qui a réuni, rappelons-le, plus de 900 supérieurs généraux venus de tous les continents, a été de redynamiser la vie religieuse, de montrer son importance dans l'Église et dans le monde, de relever son apport dans le processus synodal que vit l'Église. Toutes les communications étaient de très belles factures. J'en relève celle qui a été donnée par Sœur Simona Bambrila, qui nous a fait comprendre que les religieuses peuvent être considérées comme la lune, dont l'être et l'action favorisent et font naître les étoiles. C'est donc avec cette image qui invite à la fois à l'humilité et à la créativité que je repars en Côte d'Ivoire.
Sœur Christiane Baka, supérieure générale de la Congrégation de Sœurs Notre-Dame de la Paix en Côte d'Ivoire. Parlons à présent du forum que vient d'organiser la Fondation Caritas Cameroun. L'initiative avait pour objectif de penser des stratégies qui puissent lui permettre de vivre et d'accomplir sa mission de charité. Après la récente suppression de 83% des programmes de l'Agence de développement USAID par le gouvernement américain, Paul Valérie Mendogo nous en dit plus sur ce premier forum national qui s'est tenu à Yaoundé du 8 au 10 mai dernier.
Le Forum national de la Fondation Caritas Cameroun a rassemblé une centaine de personnes engagées dans l'action sociale et humanitaire au Cameroun, partenaires et acteurs de cet organe caritatif créé en 1971 au sein de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Monseigneur Yann Osga est le président de la Fondation Caritas Cameroun.
Justement, dans cette année de l'espérance, le thème, c'est la Fondation Caritas Cameroun, porteuse d'espérance, du développement et de la paix. Et nous sommes ici en train de mettre des idées fondamentales formées à la générosité à partir des valeurs traditionnelles, à partir des valeurs évangéliques et à partir de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Notre objectif, c'est redynamiser et aussi susciter une nouvelle dynamique d'action, de présence auprès des personnes dans les difficultés socio-économiques de notre pays.
La cérémonie d'ouverture était présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, qui a éclairé les participants sur la densité de leur mission et l'importance de la greffer sur l'Eucharistie. Mgr Jean Barga les a exhortés à modeler toutes leurs actions sur l'Eucharistie et à éduquer les personnes afin qu'elles sachent ouvrir les yeux pour voir la misère du prochain. Paul Valérie Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Parcourant à présent les pages consacrées à l'actualité sociopolitique africaine, les trois journalistes de la radio privée nigérienne Sahara FM, détenus depuis la semaine passée à Agadez, dans le nord du pays, ont été transférés dans la capitale Niamey, a indiqué mercredi leur média. Ces journalistes, deux hommes et une femme, étaient détenus depuis le 10 mai à la gendarmerie d'Agadez, après avoir relayé des informations concernant la rupture présumée de contrats sécuritaires entre le Niger et la Russie. En Guinée, le Premier ministre a annoncé la tenue en décembre 2025 des élections présidentielles et législatives. Ces deux scrutins seront finalement couplés. Cette annonce, contraire aux objectifs du chronogramme initialement établi, marque cependant une volonté de mettre fin à la transition militaire en cours depuis 2021. Des explications avec notre correspondant Emmanuel Mili Mono.
Le premier ministre guinéen Amadou Ouriba a fait cette annonce lors de l'Africa CEO Forum à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a affirmé que les élections présidentielles et législatives seront couplées et se tiendront en décembre 2025. Cette annonce intervient un mois après que le gouvernement a fixé au 21 septembre 2025 la date du référendum constitutionnel, étape préalable pour tout scrutin dans le cadre du retour à un régime constitutionnel. Cette annonce prend de court l'ensemble de la classe politique dans son plan de retour à l'ordre constitutionnel. constitutionnel, la junte avait en effet prévu d'aller de la base au sommet, en commençant par les élections locales, puis les élections législatives et finir par l'élection présidentielle. Mais depuis quelques mois, le processus électoral semble s'emballer. Le recensement biométrique des citoyens se poursuit sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques. Il devrait permettre de construire le fichier général des électeurs pour les futures élections. Des difficultés sont cependant constatées sur le terrain. Le nombre de kits d'enrôlement semble insuffisant. Les files d'attente dans les quartiers en disent long sur ce processus d'enrôlement. Emmanuel Milimono Conakry pour Radio Vatican.
De violents affrontements de nouveau opposés des groupes armés rivaux à Tripoli dans la nuit et se poursuivaient mercredi dans plusieurs secteurs densément habités après des combats ces derniers jours ayant fait au moins 6 morts, selon des sources sécuritaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit renouveler et faire respecter l'embargo sur les armes imposé au Soudan du Sud, a exhorté mercredi Amnesty International, qualifiant la présence de troupes ougandaises dans le pays de violation flagrante de cet accord. Après son élection le jeudi 8 mai dernier, la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV aura lieu ce dimanche 18 mai, place Saint-Pierre. Le 267e pape de l'Église universelle est issu de l'ordre de Saint-Augustin. La nouvelle de son élection a été accueillie avec une immense joie et un profond sens de co-responsabilité par sa famille religieuse. Pour les Augustins, c'est bien plus qu'un engagement à prier avec ferveur pour le pape Léon XIV et à vivre encore plus fidèlement le charisme au service de l'Église. C'est ce que nous dit le père Chabi Koulawale. Cet Augustin béninois est professeur des pères de l'Église à l'Institut pontifical Saint-Augustin de Rome.
Nous l'avons accueilli avec une immense émotion, une grande joie et en même temps un profond sens de gratitude et de responsabilité. C'est un événement historique pour notre ordre, bien entendu, vu qu'on n'a jamais eu un pape membre de notre ordre. Du plus ancien au plus jeune, je peux vous dire que nous nous sommes sentis appelés à prier pour lui avec ferveur et à vivre encore plus fidèlement notre charisme au service de l'Église. Parce que ceci fait que nous sommes mieux connus et donc nous devons assumer cette responsabilité justement de faire mieux connaître le charisme et la spiritualité augustinienne dont un membre est devenu le successeur de Pierre.
Quel tournant cela pourrait marquer dans votre marche spirituellement?
Eh bien, c'est un appel à revenir à l'essentiel, hein, à l'unité du cœur, à la vie fraternelle et à la recherche commune de Dieu, parce que la spiritualité augustinienne s'articule autour de 3 points essentiels qui sont justement l'intériorité. Augustin parle de l'homme intérieur, là où se trouve la vérité, là où se trouve le Christ. Et ensuite, justement, la vie fraternelle, la vie commune, la communauté. Augustin a été inspiré justement par la vie des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, qui mettaient tout ensemble et qui partageaient leur vie. Donc, c'est un appel très fort pour nous à redonner donc de valeur à notre spiritualité. Le fait qu'un des nôtres ait été appelé à devenir le successeur de Pierre nous pousse à approfondir notre fidélité au Christ en serviteur humble et joyeux de l'Évangile.
Le père Chabi Koulawale, Augustin béninois, professeur des pères de l'Église à l'Institut pontifical Saint-Augustin de Rome, interrogé par Marie-Josée Mouando Boisboileau. Le pape Léon XIV, qui sera compté sur les prières de sa famille religieuse, l'ordre de Saint-Augustin. Nous le disions, après cette élection, la messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV aura lieu ce dimanche à place Saint-Pierre. Tout en lui souhaitant un fructueux ministère pétrinien, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso, un des cardinaux électeurs, a, dans cet entretien que nous vous proposons, souligné les défis auxquels pourrait faire face le nouveau souverain pontife.
Disons que nombreux et complexes sont les défis. On peut toutefois distinguer à deux niveaux, au niveau de l'Église et au niveau du monde. Ma première observation, c'est que l'évangélisation devrait être la priorité des priorités, évangéliser non seulement par la parole, mais surtout par le témoignage de vie. Alors là, nous devons mettre tout en œuvre, et le pape en premier lieu, permettre à l'Église de relever le défi de la sainteté. Une Église toujours plus missionnaire, une Église toujours plus unie, plus dynamique, une Église toujours plus sainte.
Et cela nécessite la contribution de tous.
Un seul doigt ne ramasse pas la farine. Le pape tout seul ne peut pas faire le bonheur de cette humanité et relever le défi missionnaire. Un autre aspect, dans l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, le pape Jean-Paul II retient que l'Église ne peut avancer qu'en renforçant les liens de communion entre ses membres, à commencer par ses pasteurs. Alors, il nous faut relever le défi de l'unité et de la communion. Communion entre évêques, évêques-prêtres, l'épiscopat avec le Saint-Père, au niveau des diocèses, des paroisses, des communautés chrétiennes de base. On devrait mettre tout en œuvre pour relever vraiment le défi de l'unité et de la communion entre tous, prêtres, clergés, consacrés et laïcs, et développer autant que faire se peut la solidarité entre les églises, tant du point de vue personnel que du point de vue des moyens matériels et financiers. Nous assistons de nos jours à une certaine dictature de la pensée unique, notamment au niveau des valeurs. Par exemple, l'aide au développement des pays en développement est conditionnée par l'adoption des lois abortives, le mariage pour tous, le mariage des personnes de même sexe, etc., etc. L'Église devrait rester libre, libre eu égard aux pressions idéologiques, aux pressions culturelles, et proclamer prophétiquement avec courage les valeurs évangéliques. Pour moi, seul Jésus et l'Évangile sauveront le monde entier.
Alors, après les défis au niveau de l'Église, au niveau interne, que savoir des défis au niveau de la société ?
Au niveau de la société, bon, les premières paroles du pape après son élection, c'est la paix soit avec vous. La paix est un grand défi, un don de Dieu. La paix est le fruit des efforts des hommes. Le nouveau pasteur nous invite, après son élection, il nous invite vraiment à œuvrer ensemble pour la paix dans le monde, la paix pour l'humanité, pour tous les pays. Il invite à bâtir, donc, comme je l'ai dit, des ponts, non des murs, ponts de solidarité, ponts de fraternité, dans le dialogue culturel et religieux pour un monde meilleur.
Quels sont vos vœux, éminence, pour le pape Léon XIV ?
L'Église n'est pas une société sociopolitique. L'Église n'est pas notre propriété. Nous n'en sommes que d'humbles serviteurs, voire même inutile, selon l'expression de l'apôtre Paul. Dans ce sens, on peut souhaiter que le nouveau souverain pontife soit d'abord un fidèle aux saintes écritures et à la tradition. C'est notre point de référence ultime, la Bible. Deuxièmement, on peut souhaiter qu'il soit pleinement conscient des réalités présentes de l'Église et du monde. Et enfin, qu'il soit capable de propulser vers un avenir meilleur. Et comme le disait le bon pape Jean XXIII, « Ecclesia semper reformanda ». Comment faire en sorte qu'on avance toujours, jamais en arrière, toujours en avant, toujours en eau profonde, duc in altum. Donc en conclusion, je dirais que n'ayant de cesse de prier le maître de la moisson, pour notre pape Léon XIV, successeur de Pierre, que partant de l'expérience de ses prédécesseurs, voilà, je souhaite qu'il soit vraiment un amoureux de Jésus et un amoureux des hommes, un pasteur et un bon administrateur, qu'il soit un véritable homme de foi, d'espérance et de charité. Daigne le Seigneur bénir ce pontificat, source d'espérance pour l'Église et le monde entier.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, Burkina Faso, un des cardinaux électeurs au conclave qui a élu le pape Léon XIV.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition. J'ai eu un grand plaisir à vous la présenter. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.
Tu dois, tu dois, Marie est ta mère.